Je vous avais promis donc une interview avec monsieur Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la République. Alors tout d'abord, je voudrais remercier sincèrement d'avoir accepté notre interview, monsieur Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour.
Bonjour.
Donc quelques questions bien entendu, et ce que j'aimerais s'il vous plaît, c'est qu'on parle essentiellement de notre pays, de la France, et j'éviterai des petites histoires, parce qu'en fin de compte, les Français, ce qu'ils ont besoin, c'est leur vie au quotidien, des petites histoires des uns et des autres, cela ne nous intéresse pas. Alors,
Vous avez raison, ça change des radios officielles, si je puis dire.
Oui, parce que ils se focalisent sur des choses sans importance, j'ai envie de dire, et on en oublie le plus important, la vie au quotidien de tous les Français.
Exactement.
Ma première question, quel intérêt donc pour la France de vendre Alstom, par exemple? C'est une question qui nous touche, parce qu'il y a des tas de Français qui vont se retrouver encore peut-être au chômage, même si on dit au départ que ce n'est pas le cas.
Bah écoutez, c'est une logique financière, c'est une décision du patron d'Alstom qui profite pourtant des crédits publics, des commandes publiques, qui est allé se vendre au plus offrant, et le gouvernement, au lieu de bloquer cette vente et de chercher une solution française, comme je le proposais, c'est-à-dire en fusionnant Areva, Alstom, en créant des partenariats, a cédé, et les Américains ont racheté la branche énergie d'Alstom. Alors le ministre, M. Montebourg, a sauvé les meubles et sauvé la face en créant des co-entreprises, en bataillant pour prendre une participation de l'État dans ce qui va rester. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que les trois quarts d'Alstom partent chez les Américains, et que c'est que dans la coquille qui reste, sur les transports, que l'État prend une participation. Ça veut bien dire qu'on s'est laissé barboter, si je puis dire, prendre Alstom Energy, qui passe sous domination américaine.
Donc on va garder la partie la moins intéressante pour les Français.
Exactement. Pas obligatoirement la moins intéressante, parce que c'est toute la branche transport qui est importante, les TGV, les tramways, etc. Mais simplement, en chiffre d'affaires, on laisse partir toutes les turbines à vapeur qui sont essentielles pour l'avenir de la transition énergétique. Encore une fois, la démission dans la tête de nos dirigeants, qu'ils soient économiques, médiatiques, politiques, produira des conséquences tragiques, parce que quand la propriété d'une entreprise passe à l'étranger, les décisions passent à l'étranger. Et il ne faut pas croire qu'une fois que c'est passé, ils vont défendre les emplois en France. Ils défendront les emplois aux États-Unis.
Alors, quel avenir pour la France, M. Dupont-Aignan? Est-ce que vous pensez qu'on a encore un avenir par rapport à tout ce qui nous tombe sur la tête?
Je pense que nous avons des atouts. Notre pays a des atouts. Nous avons une démographie exceptionnelle par rapport aux autres, nous avons une épargne abondante, nous avons un territoire magnifique, nous avons des forces productives, des chercheurs. Je ne suis pas pessimiste sur l'avenir, à la condition que nos dirigeants politiques défendent les intérêts de la France. Et le problème d'aujourd'hui, c'est que nous avons des dirigeants qui ont abandonné dans leur tête. Ils ont abandonné, c'est-à-dire qu'ils considèrent que la France ne peut rien faire, que nous sommes trop petits, que nous n'y arriverons pas. Et ce faisant, ils démoralisent le pays tout entier, et surtout prennent de très mauvaises décisions, ne maîtrisant plus ni leurs frontières, ni les capitaux. Et donc, vous voyez bien les conséquences, on les perçoit tous les jours.
Alors, donc, on remarque aussi depuis des décennies, Monsieur Dupont-Aignan, depuis des décennies, des décisions, on va dire, illogiques et qui manquent de bon sens. Nous arrivons actuellement, et il ne faut pas être dupe pour le voir, à des catastrophes au niveau humanitaire concernant toutes ces personnes qui se retrouvent à la rue, ces millions de chômeurs. Alors, quel intérêt pour ces hommes politiques de faire encore rentrer des étrangers, encore et toujours? Comment pouvons-nous subvenir aux besoins de ces gens-là alors qu'on a du mal à subvenir à nos besoins?
Écoutez, c'est très clair. Si vous regardez les chiffres, il faut regarder les chiffres. En 10 ans, 12 ans, on a perdu plus d'un million d'emplois industriels en France. Moins un million d'emplois. Et en 10 ans, pareil, nous avons accueilli sur notre sol 200 000 étrangers par an en situation régulière. Je ne parle pas des clandestins. Donc, cela veut dire en 10 ans, 2 millions de personnes. Comment un pays qui perd 1 million d'emplois industriels en 10 ans peut-il accueillir 2 millions de nouveaux arrivants? pas être contre ces nouveaux arrivants, il y a des gens très bien, bien sûr. Simplement, nous n'avons plus les moyens d'assurer une cohésion sociale, un développement économique, une école républicaine à ces nouveaux arrivants. Et donc, nous laissons s'installer des ghettos, des communautarismes, avec des problèmes sociaux considérables et des frustrations qui vont susciter obligatoirement des haines réciproques. Alors que la priorité absolue devrait être de contrôler nos frontières, de limiter l'immigration et parallèlement de développer notre économie en baissant les charges des PME, en sortant de l'euro, en mettant en place un protectionnisme ciblé. Vous le voyez, d'un côté on ne développe pas l'économie, de l'autre on laisse entrer beaucoup, beaucoup du monde. Il n'y a pas besoin d'être un grand expert ou d'avoir fait de grandes études pour comprendre que dans un même pays, on ne peut pas laisser les forces économiques se détruire, s'autodétruire, et de l'autre accueillir toujours plus de personnes.
C'est ce que je reproche un petit peu à nos dirigeants depuis des décennies. Alors, il manque du bon sens, comme je disais. Alors, on voit également des sociétés françaises comme Renault qui vont faire donc les véhicules à l'étranger, notamment en Algérie. Et ça a été inauguré à grande pompe. Et puis, on a déjà pas de la main-d'œuvre en France. Et on permet aux sociétés françaises d'aller faire les véhicules à l'extérieur. Il est dit qu'il y a 18% des véhicules qui sont faits en France et donc ça représente 82% de nos véhicules qui sont faits à l'étranger. Alors comment subvenir aux besoins des Français et donner du travail quand on reçoit des étrangers qu'on n'a pas de travail et permettre aux sociétés françaises d'aller à l'extérieur? Est-ce que vous avez, vous, des solutions, Monsieur Dupont-Aignan?
Oui, si nous en sommes là, et si les hommes politiques en sont là, c'est parce qu'ils se sont imposés des règles. Ils ont signé des traités européens qui leur interdisent d'agir. Quand la Chine, je vous le disais récemment, dit à Peugeot, si vous voulez vendre des Peugeot en Chine, vous devez construire des usines en Chine. Quand le Congrès américain dit à Airbus, si vous voulez vendre des avions aux États-Unis, il faut construire des usines Airbus aux États-Unis. La France, les entreprises françaises le font. Et nous, quand on voit des importations, la Commission de Bruxelles dit « Vous n'avez pas le droit d'imposer des règles aux importateurs. Vous n'avez pas le droit de faire ce que font la Chine, ce que font les États-Unis, le Brésil, tous les pays du monde. » Et donc, nous sommes dans une situation où les hommes politiques français ont signé des traités européens qui les ont dépossédés, qui ont dépossédé notre peuple des moyens d'action. Alors, c'est très simple. Je l'avais proposé pendant l'élection présidentielle. Il y a des mesures à prendre. Et moi, je regarde ce qui se fait dans le monde. J'ai rien inventé. Pourquoi n'est-on pas capable de faire ce que les autres font? Pourquoi, par exemple, ne dit-on pas aux sociétés qui importent beaucoup qui exportent en France et qui importent donc dans notre pays beaucoup de produits, eh bien, écoutez, au-delà d'un certain chiffre d'affaires, il faut produire en France. Pourquoi garde-t-on l'euro, qui est une monnaie beaucoup trop chère et qui nous interdit d'exporter? Tous les pays du monde ont dévalué la valeur de leur monnaie. Est-ce que je me fais bien comprendre? Dévaluer la valeur de la monnaie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que M. Obama a laissé baisser la valeur du dollar pour pouvoir exporter. Quand vous avez un produit en dollars qui vaut moins cher, bah, il le vend mieux dans tous les pays du monde. Le Japon a baissé la valeur de sa monnaie de 40% pour pouvoir exporter. Tous les pays du monde, sauf l'euro, qui est trop cher. Ce qui fait que nos entreprises sont conduites à délocaliser. La délocalisation, c'est la conséquence de mesures qui ont été acceptées en France. Et alors, quand je dis ça, on me répète toute la journée, « Ah, mais on n'y peut rien, c'est l'Europe. » Alors, ça veut dire à quoi ça sert d'élire des gens? À quoi ça sert de faire des élections? Puisqu'ils ont déjà tout décidé et qu'ils ne veulent pas changer. On ne créera pas d'emplois en France, on ne relocalisera pas les activités si on ne change pas de politique. Et j'ai proposé pendant la présidentielle trois mesures. Sortir de l'euro pour avoir une monnaie moins chère, mettre en place quelques barrières protectionnistes pour imposer à ceux qui exportent chez nous des produits en grand nombre de produire chez nous, et troisièmement, baisser les charges de nos PME, et notamment diviser par deux l'impôt sur les sociétés pour les entreprises qui réinvestissent en France, c'est-à-dire qui relocalisent en France.
Combien de temps vous pensez que les Français vont tenir le coup au rythme où ça va? Au rythme, quand je parle du rythme, de licenciement et puis des gens qui se retrouvent à la rue?
Écoutez, moi je comprends la colère. Simplement, on a un problème médiatique. on a beaucoup de mal à passer dans les médias nationaux pour expliquer qu'on peut faire autrement. Tout est fait pour démoraliser les Français. Tout est fait pour leur faire croire qu'il n'y a pas de solution. Or, il y a des solutions. Qu'on ne me dise pas qu'il n'y a pas de solution, il y a des solutions. Ces solutions, on les connaît par cœur. Nous devons faire des efforts, c'est vrai, c'est-à-dire remettre de l'ordre dans nos affaires, dépenser moins dans certaines collectivités, être plus économe de l'argent public pour pouvoir baisser un peu les impôts. Et puis, il faut aussi savoir se protéger. Vous savez, on est dans la Coupe du Monde de foot. Il y a, dans une bonne équipe, il faut une défense et une attaque. Eh bien, moi, je trouve qu'on a, on s'interdit d'avoir une bonne défense. On n'a plus de gardien de but en France, sur le plan économique. On ne se protège plus. Et puis, l'attaque, elle est mauvaise tellement nos entreprises sont surtaxées. Et tellement l'euro est cher. Bah, vous ne pouvez pas créer de l'emploi si vous n'avez pas une bonne attaque, une bonne défense.
Vous n'avez pas l'impression, M. Dupont-Aignan, qu'on se retrouve face à une situation, tout ce qu'ils ont été vantés pour l'Europe, c'est l'effet contraire. On nous a dit que l'Europe, ça va être la sécurité, on nous a dit que l'Europe, ça va être la stabilité, on nous a dit que l'Europe, ça va être l'emploi, et il se passe tout à fait le contraire de ce qu'on nous a toujours bassiné pendant des années.
Oui, parce que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait croire que les abandons de pouvoir, de souveraineté, c'est-à-dire du pouvoir du peuple, qui ont été faits des technocrates, allaient servir l'Europe en général, les peuples. Mais cette Europe qu'on nous a construite, elle est monstrueuse, elle est antidémocratique, c'est l'Europe de la régression sociale. Mais quand vous pensez, je ne sais pas si vous avez remarqué là, qu'ils ont choisi comme président de la Commission européenne, oui, le premier ministre d'un paradis fiscal pendant 18 ans, qui est un état voyou, le Luxembourg, qui a triché avec toutes les règles, qui fait du dumping social, fiscal. Ils l'ont mis président de l'Europe. C'est pas symbolique, ça?
Alors, donc, là, j'ai l'impression qu'ils arrivent à s'entendre, les grands partis, pour mettre des gens qui sont un petit peu de leur avis et qui pensent, on va mettre entre guillemets, qui pensent comme eux. Alors, on arrive à des extrêmes, justement. Cette personne-là qui défend pas grand-chose, si ce n'est sa place de président. Et puis, là, on oublie un petit peu le peuple, les peuples.
Mais vous avez tout compris. C'est pour ça que je me bats. C'est pour ça que j'ai créé un nouveau parti, Debout la République. C'est pour ça qu'on va à toutes les élections. C'est pour ça qu'on a d'ailleurs fait 4% des voix aux européennes avec beaucoup moins d'exposition médiatique. Et je veux dire aux Français qui sont découragés, rejoignez-nous. On va y arriver. On peut se remobiliser. Aidez-nous. Et notamment dans les départements de l'Isère, de la Savoie, où j'ai des gens très bien, des élus, des maires. Vous savez, il y a toute une force silencieuse qui commence à gronder, sans tomber obligatoirement dans les extrêmes. Moi, vous savez, on a enfermé les Français dans le Front National, le PS ou l'UMP. Et le PS et l'UMP adorent le Front National. Ils adorent Jean-Marie Le Pen. C'est parfait pour eux. Puisque Jean-Marie Le Pen, avec ses phrases scandaleuses, ses excès, discrédite l'offre nationale qu'on doit effectuer. Et donc, ça leur permet de capter les voix des gens en colère et puis en même temps de ne jamais gouverner parce que les Français ne veulent pas laisser les clés de la Maison France à Madame Le Pen. Voilà la réalité. Et donc, tout ce qu'il faut faire, c'est créer une offre patriotique, alternative, républicaine, sociale, quelque chose de sérieux.
Je trouve quand même lamentable de la part de mes confrères d'appuyer sur des choses, j'ai envie de dire, comme je disais tout à l'heure au début de l'interview, sans importance pour le peuple de France. Des petites phrases assassines où simplement il suffit de regarder un petit peu la définition de ce qui a été employé. Moi, j'ai envie de vous dire, il faut qu'on arrête de se tourner sur des petites choses alors que le peuple souffre au quotidien. Quand vous voyez ce qui se passe après un match et qu'on dégrade les voitures du pauvre Jean qui a besoin de sa voiture pour aller travailler et il n'a rien fait, lui, pour mériter ça. Et puis, on laisse faire. Et j'ai entendu, je crois même, Apathy qui disait « Ah, mais c'est comme ça. » Donc, il trouve ça normal. Normal que des voyous détruisent le bien d'autrui.
Oui, mais si vous voulez, là aussi, c'est le déni de réalité, la politique de l'autruche. La politique de l'autruche. On a laissé s'enquister en France des populations qui n'aiment pas la France, mais qu'elles repartent dans leur pays. Point barre. Et en même temps, sachez que ces personnes déconsidèrent les étrangers qui se sont installés régulièrement sur notre pays, dans notre pays, et qui aiment notre pays. Les premiers, vous savez, les premières victimes de tous ces petits voyous qui préfèrent l'Algérie à la France, ben ce sont ceux qui sont intégrés, assimilés et qui aiment la France. Donc la France, les autorités françaises sont laxistes. On devrait interdire ces manifestations. On devrait punir très sévèrement ceux qui cassent, ceux qui déconsidèrent, ceux qui abîment la cohésion nationale. Mais là aussi, on a des hommes politiques lâches, très lâches.